Bonjour à tous.
Bonjour Pyrène.
Nous nous retrouvons aujourd'hui pour
parler de la séparation.
Pourquoi c'est si difficile de se séparer ?
Alors, il est difficile de se séparer pour comprendre la difficulté que vous évoquez. Il y a à acter que sur un certain plan, nous sommes inscrits sur le principe de la non-séparativité.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'au plan cosmique, ou si je me réfère à la physique quantique, le monde est un, et nous sommes tous interdépendants, et c'est ce que dans le bouddhisme on appelle le principe de la non-séparativité. Alors qu'au plan physique, eh bien, nous sommes dans l'obligation impérieuse de nous séparer. Ainsi, si vous regardez le grand livre de la nature, tout organisme vivant est amené à se séparer. La feuille se détache de l'arbre, le bébé peut pas rester dans le ventre de sa mère au-delà de 9 mois et demi, voire 10 mois, sous peine de la mort respective de l'un et de l'autre. Donc, si nous acceptons de regarder que la vie, c'est un continuum de séparation, eh bien, nous pouvons éclairer nos difficultés à nous séparer psychiquement et affectivement. Et l'aisance dans la séparation vient venir de ce que nous aurons développé une maturité psycho-affective. Cette maturité psycho-affective porte le gentil nom de autonomie psychique. L'autonomie n'est pas quelque chose que nous décrétons. L'autonomie, c'est une qualité psychique qui nous permet de nous tenir debout seul en présence de l'autre. À défaut de cette maturité psycho-affective, donc cette autonomie, nous développons des relations de codépendance. Et quand il y a une relation de codépendance, eh ben la séparation est souvent impossible.
Ça m'évoque les deux podcasts que nous avons faits sur la relation et l'autonomie psychique. Si je comprends bien, il faut une certaine maturité psycho-affective pour que la séparation soit moins douloureuse.
Déjà que la séparation soit moins douloureuse, c'est déjà une manière d'idéaliser le principe même de la séparation. La séparation, elle est vécue différemment par chacun d'entre nous à l'aune de sa maturité psycho-affective. Quelqu'un qui est dans une relation de codépendance, il y a de fortes chances pour que la relation soit impossible. Et si les événements de la vie obligent, ce sera extrêmement douloureux.
Quel lien vous faites entre la nature sociale de l'être humain et la séparation ?
Les communautés humaines témoignent de ce que chaque être est différent au plan social. Au plan physiologique, nous sommes chacun dans l'expérience de l'individualité. Notre corps nous individualise déjà. Et donc, quand on parle de lien social, eh bien, ça suppose que nous ayons développé une aptitude à être en relation avec l'autre. Et être en relation avec l'autre, ça suppose d'emblée que nous acceptions que nous sommes seuls à bord de cette enveloppe corporelle qui peut nous renvoyer à un sentiment profond de solitude qui, pour certains, est inacceptable. Et quand ce sentiment de solitude est inacceptable, eh bien, la personne concernée va faire des pieds et des mains pour s'accrocher à quelqu'un et qui va donner de la codépendance. Auquel cas, dans la codépendance, il n'y a pas de relation. Il y a des problématiques d'attachement où il y a ce qu'on appelle des liens symbiotiques. Mais il n'y a pas de relation. Parce que la relation, elle exige qu'il y ait deux personnes séparées.
Oui.
Il ne peut pas y avoir de relation sans séparation.
Vous expliquez tout ça très bien dans le podcast sur la relation et l'autonomie psychique que je vous invite à écouter ou réécouter. Quelle est la première des séparations ? Est-ce que c'est l'enfant et la mère ?
La première séparation qui va acter pour le bébé sa première respiration, qui va l'engager dans tout un processus d'autonomisation physiologique. L'enfant devient autonome au plan physiologique. Et la difficulté qu'il va rencontrer au cours de sa vie, c'est de devenir autonome au plan psychique, affectif et émotionnel. Tout être humain fait l'expérience de l'autonomie au quotidien dans son corps. Pour la majorité d'entre nous, le corps fonctionne de manière autonome. Moi, je respire, personne ne peut respirer à ma place. Personne ne peut dormir à ma place, personne ne peut boire à ma place, vous comprenez? Donc ce principe de l'autonomie, il n'est pas négociable, il fait partie de la condition humaine. Donc, selon les écoles, la première séparation, c'est bébé-maman. Il y a des écoles qui considèrent que la première séparation, c'est le bébé avec son placenta. Bon, je ne vais pas développer ça ici, mais ça peut être intéressant de le regarder. Et à partir de ce premier acte, cette première expérience de séparation, eh bien, elle est le prélude à un enchaînement de séparation qui va nous inscrire dans un cycle de mort et de renaissance.
C'est-à-dire,
c'est-à-dire que dans ce principe d'autonomisation qui est associé à la séparation, on ne peut s'autonomiser ou devenir un être autonome, c'est plus français, que dans la mesure où le principe de séparation est acté et que ce principe est vécu comme étant naturel. On retrouve ça à travers une expression qui dit « tout ce qui commence se termine ». C'est-à-dire que nous vivons ça avec notre calendrier. Chaque jour est un jour unique. Aujourd'hui, nous sommes un certain jour du mois de mai 2023. Eh bien, demain, ce sera un autre jour. Et donc, il va bien falloir que je me sépare de la journée d'aujourd'hui pour me rendre disponible à celle de demain. Pourquoi la séparation, elle est vitale, et pourquoi est-ce que moi je la considère comme un phénomène naturel, même si au plan émotionnel, psychique et affectif, elle est vécue plutôt sur le mode angoissant que sur le mode naturel? Eh bien parce que ce mouvement de séparation me rend disponible à autre chose. S'il n'y avait pas ce principe naturel de la séparation, je serais toujours enfermée dans le même espace-temps, ce qui interdirait toute transformation et toute métamorphose. J'en veux pour preuve qu'à partir du moment où le spermatozoïde et l'ovule se sont rencontrés, il y a eu une rencontre, et puis petit à petit, les cellules se sont multipliées, se sont séparées, et elles ont donné un être humain en devenir. Pour moi, c'est très important de rappeler que si la séparation est un mouvement naturel de la vie physique, psychique, affective et émotionnelle, c'est ce que génère comme vécu ces temps de séparation qui, eux, sont névrotiques. C'est pour ça que la majorité des personnes associent la séparation à l'angoisse de perte. Et donc, il y a eu un terrible dérapage dans nos sociétés névrosées. C'est que la séparation est automatiquement vécue sous le mode angoisse de perte. Donc, automatiquement, si vous vivez ça sur le mode perte, vous ne pouvez pas vous réjouir de ce qui se sépare. Est-ce que je me fais comprendre ?
Oui, c'est très clair. Et alors, comment se sortir de ce mode, de cette association entre séparation et perte et douleur ?
Déjà, écoutez le podcast qui met bien l'accent sur le fait que si la séparation est naturelle, l'angoisse de perte ne l'est pas. Ouais. L'angoisse de perte, c'est une manière, c'est une psychologisation de la séparation. Je dirais même que c'est un refus de se séparer.
Et elle est bien souvent... elle se transmet aussi de génération en génération ou...
De quoi, l'angoisse de perte, ouais. Ah ben oui, oui. Aujourd'hui, par exemple, si on se réfère à l'actualité de ce monde, nous pouvons voir, vous et moi, combien la peur du manque est orchestrée. Nous sommes menacés en permanence par la presse, par les réseaux sociaux, par les conversations avec les amis, par cette peur de manquer. Oui. Vous voyez, comment dire, à me vautrer dans l'angoisse de perte, avec tous ses corollaires, la peur du manque, l'avidité, le fait de collectionner, de stocker, de consommer, voilà, tout ce qui va me permettre de rentrer en possession. Et donc, vous savez qu'un être qui rentre en possession, non seulement de ses expériences, qui s'identifie à ses vécus et qui veut posséder les objets, voire posséder les autres, qu'il considère aussi comme des objets, eh bien, il prend le risque d'être dépossédé et il aggrave sa peur du manque. C'est vraiment, c'est plus qu'une question psychique, la séparation. C'est une question qui est d'ordre philosophique, voire métaphysique. Tout ce qui est vivant accepte la séparation.
Et s'il ne l'accepte pas ?
Il va combattre avec les stratégies que je viens d'évoquer, c'est-à-dire il va vivre l'enfer de la possession, du manque, la peur d'être affamé, et les addictions.
D'être délaissé.
Et les addictions, je pense que nous sommes... Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nos sociétés déplorent la multiplication des addictions ? Et statistiquement, on voit bien qu'il y a de plus en plus de consommation addictive. Hein ? Pourquoi ? Parce que une personne qui est taxée d'addiction, c'est la signature d'une personne qui n'est pas autonome. Elle a une relation de codépendance, soit avec l'alcool, soit avec la drogue, soit avec la nourriture, soit avec le travail. Et ça vient d'une problématique, ce qu'on appelle chez les psys, une problématique d'attachement. Et la problématique d'attachement, eh bien, témoigne, on appelle ça la maladie du non-séparé. C'est-à-dire qu'à un stade précoce de son développement, l'enfant n'a pas acté qu'il était séparé de sa mère, et petit à petit, enfin inconsciemment, il va, comment dire, fabriquer une corde à nœud pour retourner dans le ventre de sa mère. Voilà. Et c'est ce qui va faire des adultes qui vont privilégier les relations symbiotiques, qui se résument ainsi, toi et moi, c'est pareil. Mais dans ce cas-là, si toi et moi, c'est pareil, ça veut dire que nous ne sommes pas séparés, et si nous ne sommes pas séparés, il n'y a pas de relation. Et s'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de sujet. Pas de sujet au sens la polarisation du mot objet. C'est un statut psychique, objet et sujet. Hein ? Dans une relation de codépendance, nous sommes objets de l'autre comme l'autre est objet de moi-même. Alors que quand c'est deux sujets qui sont en présence, la différenciation est actée, et non seulement elle est actée, mais elle est acceptée et elle est vécue, et que chacun a conscience que l'autre, c'est pas moi.
C'est très clair et ça fait écho à tous les podcasts, la relation, la vie de couple, l'autonomie psychique, oui. La maturité psychoactive.
Oui, oui,
ça fait écho.
Quel lien vous faites entre la dissociation et la séparation ?
La séparation est un phénomène naturel qui est une des caractéristiques de la condition humaine, alors que la dissociation, elle est conflictuelle et de nature névrotique. Un être dissocié, c'est une personne qui est en conflit avec elle-même. Et ce mot dissociation est un mot très utilisé par Jung. Il n'utilise pas le mot névrose, ni le mot psychose. Il utilise le mot de dissociation, c'est-à-dire un conflit intrapsychique qui met la psyché proche de l'oyau. Et justement, c'est parce qu'il y a dissociation et conflit interne dont la personne ne s'est pas différenciée du matériau psychique dont elle est porteuse, hein, donc pas différenciée, elle s'en est pas séparée, et du coup elle est agie par ces matériaux psychiques qui fonctionnent, eux, de manière autonome à l'insu de son plein gré.
si je comprends bien, si la personne ne s'est pas dissociée, elle ne peut pas se séparer.
Non. Je répète, la séparation est naturelle, la dissociation, elle est névrotique. Qui dit névrose dit une déformation de la réalité. Et les réalités peuvent être externes comme internes. Quelqu'un qui est dissocié, c'est quelqu'un qui a un conflit intérieur, c'est-à-dire qu'il s'impose d'être comme ça alors qu'il est autrement. C'est le principe même de la dissociation que nous avons abordé dans le podcast sur « Pourquoi vouloir être un autre ?»
D'accord. C'est très clair.
Quel est l'avantage de se séparer, Dominique ?
L'avantage de la séparation, c'est de se vivre en tant que sujet. Et quand vous vivez en tant que sujet, Pyrène, eh bien ça veut dire que l'autre ne peut pas disposer de vous. Que vous pouvez vous autoriser à être vivant en sa présence, il peut avoir un point de vue différent, mais il n'a pas le pouvoir de vous définir, il n'a pas le pouvoir de décider à votre place. Enfin oui, pour moi, le principe de la séparation, c'est ce dont je tente de témoigner dans ce podcast, il a une dimension philosophique qui pourrait répondre à de nombreuses questions existentielles. Ne plus être objet, bien évidemment. Être autonome. Et qu'est-ce qui s'est passé dans notre expérience de vie première, puisque nous l'avons évoqué entre le bébé et sa mère, nous savons très bien que le petit de l'homme, ce n'est pas un produit fini quand il débarque sur la planète Terre. Il va lui falloir des mois et même des années pour devenir indépendant. Déjà au niveau physique. Et donc, oui, l'expérience première est l'expérience d'une dépendance totale à l'environnement. Ça nous a marqué, cette dépendance. Et il y a des environnements qui vont favoriser l'indépendance puis l'autonomie du bébé, qui va petit à petit devenir un adulte autonome, et il y a des environnements qui sont des environnements affectifs, éducatifs, qui, eux, ne vont pas favoriser l'autonomie. Ce qui fait qu'on peut se retrouver dans un statut de bébé, affectivement parlant, à l'âge adulte. D'où la codépendance et les problématiques d'attachement. Parce que moi, j'utilise l'expression suivante, nous quittons la table quand nous sommes repus. Eh ben, un enfant, il quitte son père et sa mère, donc l'environnement affectif premier, à partir du moment où il a pu télécharger et se nourrir de suffisamment, il a suffisamment, engrangé de matériaux pour avoir développé le goût de l'inconnu et de mener une vie autonome. Tout le développement des tanguis dont on parle aujourd'hui témoigne de cette problématique d'attachement, au même titre que la montée massive des addictions diverses et variées.
Alors juste en sous-titre, tanguis, c'est bien le jeune,
oui,
l'adulte qui reste...
Qui a 30 ans, il reste,
30
voilà,
ans chez ses parents.
Ouais. Il reste, et qui se trouve très bien, ça ne veut pas grandir.
Uh-huh.
Voilà.
Ouais.
Voilà.
Quel lien peut-on faire entre la mort et la séparation ?
La mort, comme la séparation, sont toutes les deux des processus naturels. Et que ça n'est pas négociable. Ni l'une ni l'autre, ne sont négociables. Ce qui fait la difficulté, ce sont les vécus que chacun d'entre nous éprouve face à la séparation comme face à la mort. Et j'anticipe votre question peut-être, c'est que ces vécus sont d'autant plus douloureux qu'il n'y a pas de nourriture philosophique, métaphysique, spirituelle, pour nous accompagner dans l'acceptation de cette réalité qu'est la séparation et qu'est la mort. Dans la population mondiale, tout le monde ne considère pas que la mort est la séparation ultime. La question qui se pose, c'est de quoi nous nous séparons. Donc, effectivement, je vais retrouver face à la mort la même angoisse de perte que de voir la séparation. C'est pour ça qu'il est très intéressant, lors d'un parcours de vie, hein, de s'apprivoiser à ce processus naturel qu'est la séparation. Et pour moi, c'est la finalité d'une thérapie. C'est de se vivre comme un être séparé, ce qui ne veut pas dire un être isolé. Un être séparé est un être qui est en relation, et un être qui est en relation, c'est un être qui est en sécurité. Sa sécurité ne dépend pas de modalités extérieures. Donc du coup, le mouvement addictif se réduit, voire disparaît.
Merci beaucoup Dominique, c'est très clair et très complémentaire, je trouve, avec les thématiques que nous avons déjà abordées. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour le prochain podcast qui sera très probablement sur la mort ou le processus de mourir. À bientôt.